Bonjour Valérie Rabault.
Bonjour.
Vous êtes très remontée ces derniers jours contre l'augmentation des taxes sur les carburants et sur le fioul aussi qui sert à chauffer bon nombre de maisons en France. Est-ce qu'on peut vouloir, parce que vous la voulez, la transition énergétique et ne pas vouloir en payer le prix?
Ça dépend qui paye le prix. Et aujourd'hui, ceux qui payent le prix, sont les ménages qui ont les revenus les moins élevés. Tout simplement parce que quand vous avez des transports en commun, cette hausse-là, vous ne la voyez pas. En région parisienne, vous avez un pass Navigo 72 euros. Si vous êtes salarié, votre employeur vous en rembourse la moitié, ça vous coûte 36 euros par mois. Quand vous habitez dans un endroit où vous n'avez pas accès aux transports en commun, eh bien, vous enregistrez une hausse très significative qui grève votre pouvoir d'achat. Une famille, deux parents, deux enfants, qui vit à la campagne, qui se chauffe au fioul domestique, qui a une voiture, pas deux, une. Diesel a enregistré en 2018 150 euros de taxes en plus, hors TVA. Il faut appliquer là-dessus encore la TVA et la hausse du prix du baril. Et en 2022, cette famille paiera 576 euros de plus qu'en 2017. Et ça, c'est quel que soit le revenu que vous avez. Ça ne dépend pas de votre revenu. Donc c'est ça qui est
Est-ce qu'on
injuste.
pourrait
Mais vous dites, je suis très remontée, mais je suis très remontée depuis un an. Alors ça, c'est peut-être pas suffisamment entendu. Ça date pas d'il y a 15 jours. Nous, ça fait un an que nous le dénonçons. Et on ne fait pas que dénoncer parce qu'on a fait des propositions
Alors
alternatives
justement, est-ce qu'on
qui
pourrait
étaient de dire.
cibler les grandes villes, par exemple, pour en revenir à ce que vous disiez, là où il y a une offre de transport en commun, on essaierait de là de décourager les automobilistes de prendre leur véhicule pour alléger la peine de ceux qui sont en zone rurale, où c'est vrai, parfois il n'y a pas le choix, c'est la voiture ou rien.
Il pourrait y avoir un système de ce type-là. Il y a aussi un autre système qui consiste à avoir un chèque énergie qui dépend là du revenu, c'est-à-dire qu'on peut le moduler sous forme d'un crédit d'impôt. Ça, c'est ce que nous avions proposé l'an dernier. Mais encore une fois, vous ne pouvez pas. Vous avez une double peine qui s'applique aujourd'hui. Il y a des retraités qui vivent à la campagne. Donc eux, c'est hausse de la CSG, pas de revalorisation de leur retraite. Hausse de toutes les taxes sur le fioul domestique quand il se chauffe. Une cuve pour une famille, c'est 2 200 litres par an. Qui ont les taxes sur les véhicules. Donc vous avez une concentration des effets de fiscalité négative sur un certain nombre de personnes. Et ce sont des personnes qui n'ont pas les revenus les plus élevés. Si vous êtes cadre, que vous habitez en centre-ville, votre CSG, elle est remboursée par la baisse des cotisations. Vous avez des transports en commun. Et en plus, vous allez avoir un chèque sur votre taxe d'habitation. Quand le 80%, on sera
Oui,
le haut de
quand
la
vous rentrez dans le
80%.
cadre, oui.
Bon. Donc, vous voyez bien que vous avez un appauvrissement de certains départements. Nous, on a fait une carte dans le budget alternatif que les socialistes ont proposé. On a montré la carte où par département, la proportion de retraités par rapport à la population totale. Vous êtes dans un département rural, vous comptez plus de retraités que les autres, vous êtes dans une situation d'appauvrissement. Et ça, c'est inacceptable.
Mais est-ce qu'on n'est
Et
pas en
d'ailleurs, le
train,
gouvernement va commencer à le payer, enfin le gouvernement, c'est les Français bien sûr,
Oui.
parce que la croissance économique est beaucoup moins
Elle
élevée que
marque
ce
le
qui avait
pas.
été anticipé. Et on a vu hier les chiffres
On va
du
en parler.
chômage avec une hausse du nombre de demandeurs d'emploi.
On
Tout
va parler du
ceci est
chômage
lié. Tout
spécifiquement
ceci
dans
est
un
lié.
instant. Mais est-ce que finalement, on n'est pas en train de payer le prix d'un déficit d'anticipation depuis des années, depuis des décennies même, de la part de très nombreux gouvernements sur cette nécessité de transformer notre modèle énergétique? On n'a pas voulu le faire parce que c'était sans doute un peu populaire. Puis maintenant, il faut aller d'un seul coup très vite.
Oui, alors je ne vais pas blâmer le gouvernement pour ce que il n'est pas responsable de ce que les autres n'ont pas fait avant lui. Il faut quand même rendre à César ce qui
Non,
est à
c'est bien ce que je
César.
dis. J'ai dit
Mais
que
vous avez
personne ne l'a
raison,
fait.
vous avez raison. Il y a un déficit d'anticipation, mais on peut pas. Il faut avancer sur deux jambes dans cette affaire. Il faut effectivement dissuader d'utiliser son véhicule quand on peut faire
Ouais.
autrement, mais dans ce cas, il faut aussi augmenter l'offre de transport en commun. Si vous ne faites pas les deux en même temps, et c'est pas le cas aujourd'hui, vous savez, même en région parisienne, le RER parfois est quand même. D'abord, il est très bondé le matin et parfois il connaît quelques
Il est
petites
un peu
pannes.
défaillant, oui.
Donc, si vous ne faites pas les deux en même temps, forcément, ça crée un hiatus qui est subi par les Français.
Christophe Castaner est allé dans le 19e arrondissement de Paris hier, là où un jeune homme a été tué il y a 2 jours dans une nouvelle bataille rangée entre bandes. Le nouveau ministre de l'Intérieur s'est voulu, vous l'avez peut-être vu, très ferme sur la volonté du gouvernement de s'attaquer vigoureusement à ce phénomène. Est-ce qu'il vous paraît crédible? Est-ce qu'il vous a convaincu?
Je pense qu'il faut pas trop parler et plutôt agir. Et une fois qu'on a agi, on peut parler. Voilà.
Le ministre a dit qu'il voulait reconquérir les territoires cage d'escalier par cage d'escalier, mètre carré par mètre carré.
Écoutez, nous,
on a un peu l'impression d'avoir entendu ça déjà 100 fois.
Oui, non, mais c'est pour ça, on l'a entendu, il vaut mieux ne pas trop parler et agir. En ce moment, on discute du budget à l'Assemblée nationale, notamment sur la police et la gendarmerie. Nous avons fait des propositions pour créer des postes plus que ce que fait le gouvernement, parce qu'il faut mettre en adéquation les moyens avec les objectifs. On leur donne aussi des moyens. Vous savez, les taxes écologiques, elles s'appliquent aussi pour la police et la gendarmerie, qui n'ont plus assez de budget carburant et qui vont prendre dans d'autres budgets, les budgets photocopieurs, ou, etc. Donc ça, c'est pas acceptable non plus. J'espère que le gouvernement donnera une réponse positive à notre amendement là-dessus, pour que les policiers et les gendarmes puissent travailler dans de bonnes conditions.
Mais est-ce que, un peu comme je le disais à l'instant pour la transition environnementale, il n'y a pas eu, là aussi, une faillite des gouvernements depuis des années en matière de lutte contre la délinquance? On ne voulait pas voir, on ne voulait pas prendre vraiment le problème à bras-le-corps.
Il y a eu des efforts qui ont été faits, en tout cas pour recréer tous les postes dans la gendarmerie et la police,
oui,
le dernier quinquennat.
Mais attendez, vous voyez bien que la situation, elle est catastrophique dans de très nombreuses villes, dans de plus en plus de villes.
Vous avez raison. Je vais vous répondre par étapes ou par escalier, comme vous voulez. Dire, il y a eu la recréation d'un certain nombre de moyens. Est-ce que la prise de conscience a été suffisante? La réponse est non. Et vous pouvez aussi étendre cette question sur ce qui se passe dans le milieu scolaire, où moi je crois qu'il peut y avoir une forme d'autocensure involontaire de la part d'un certain nombre, enfin de la part d'enseignants, parce qu'ils ne sont pas entendus toujours par leur hiérarchie. Vous savez, si vous remontez des difficultés et que personne ne vous entend, à la fin, vous finissez par plus les remonter.
Autocensure par rapport à quel type de phénomène?
J'ai des exemples aussi il y a des exemples de violence, mais il y a aussi d'autres exemples de radicalité dans certaines classes et qui ne sont pas nécessairement remontés.
Quand vous dites radicalité, vous parlez de religion?
Je parle de radicalité ou des principes de la République.
Oui, mais les choses aussi. Si on dit...
Je ne stigmatise personne. Je dis juste que la République, elle s'applique dans une classe, qu'elle doit être enseignée. Liberté, égalité, fraternité, laïcité doivent être enseignées. Et qu'il arrive que dans des classes, vous ayez des parents qui refusent que ce jour-là, leurs enfants viennent à l'école. Donc ça fait partie des phénomènes qui existent et qui ne sont pas toujours remontés à la hiérarchie, parce que je pense que les enseignants ne sont pas suffisamment entendus sur ces questions-là.
Alors, ce matin, Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation, Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur, et Nicole Belloubet, la garde des Sceaux, réunissent précisément un comité stratégique sur la violence à l'école. Il va se tenir dans quelques instants. Le Parti Socialiste, sur ce sujet-là, aujourd'hui, a des idées?
Alors, déjà, c'est très bien que ces trois entités se parlent, parce que l'État fonctionne par silos. Donc chacun vit dans son silo, la police, l'éducation nationale, la justice. Donc effectivement, on voit bien qu'ils n'arrivent pas à coordonner l'ensemble des forces. Donc ça, c'est très bien qu'ils se réunissent à trois et qu'on dise on sort un peu du silo. Moi, je pense que la première étape, c'est d'écouter les enseignants et de leur permettre de s'exprimer et de ne pas prendre et de prendre leur parole au sérieux. Et ça sera la première étape. Vous allez me dire, c'est pas grand-chose. Oui, mais c'est déjà un grand pas qui sera franchi.
Revenons donc au chômage que vous évoquiez. Il a augmenté pour le deuxième trimestre consécutif. Le chômage de longue durée est particulièrement concerné. Vous tenez donc, si j'ai bien compris, la politique d'Emmanuel Macron pour responsable de la situation?
Je la tiens sur deux choses. La première, d'abord, c'est les deux trimestres consécutifs où le chômage se remet à augmenter. On nous a dit à l'été 2017, il faut libérer les forces économiques et ça va faire baisser le chômage. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc on voit bien que ça fonctionne pas. Le deuxième volet, ce que je reproche à cette politique économique, c'est qu'il y a un manque d'investissement. Et dans les départements où le pouvoir d'achat des Français est sacrément abîmé, on voit une baisse de la construction, parce que les ménages investissent beaucoup moins. On voit un recul de l'activité économique. Dès qu'il y a recul de l'activité économique, il est évident que le chômage repart. Grosso modo, pour qu'on fasse baisser le chômage, il faut qu'on ait un peu plus de 2% de croissance. C'est ce qui a été le cas en 2017. En 2017, 2,2% de croissance, le chômage a reculé, les créations de postes ont été extrêmement actives. Cette année 2018, on n'est pas dans ce scénario-là. Donc on le paye cash. Et on le paye toujours cash sur l'emploi.
Merci Valérie Rabault. Bonne
journée. Merci à vous.